Livre 3, chapitre 4, grand 2. Mais il existe des cérémonies où ce caractère représentatif et idéaliste est encore plus accentué. Dans celle dont il vient d'être question, la représentation dramatique n'était pas là pour elle-même. Elle n'était qu'un moyen en vue d'une fin toute matérielle, la reproduction de l'espèce totémique. Mais il en est d'autres qui ne diffèrent pas spécifiquement des précédentes, et d'où pourtant toute préoccupation de ce genre est absente. On y représente le passé dans le seul but de le représenter, de le graver plus profondément dans les esprits, sans qu'on attende du rite aucune action déterminée sur la nature. Tout au moins, les effets physiques qui lui sont parfois imputés sont tout à fait au second plan et sans rapport avec l'importance liturgique qui lui est attribuée. C'est le cas notamment des fêtes que les Waramunga célèbrent en l'honneur du serpent Wolunkwa. Le Wolunkwa est, comme nous l'avons déjà dit, un totem d'un genre très particulier. Ce n'est pas une espèce animale ou végétale, mais un être unique. Il n'existe qu'un Wolunkwa. De plus, cet être est purement mythique. Les indigènes se le représentent comme une sorte de serpent colossal dont la taille est telle que, quand il se dresse sur la queue, sa tête se perd dans les nuages. Il réside, croit-on, dans un trou d'eau, appelé Tapawerlu, qui est caché au fond d'une vallée solitaire. Mais s'il diffère par certains côtés des totems ordinaires, il en a cependant tous les caractères distinctifs. Il sert de nom collectif et d'emblème à tout un groupe d'individus qui voient en lui leur commun ancêtre, et les rapports qu'ils soutiennent avec cette bête mythique sont identiques à ceux que les membres des autres totems croient soutenir avec les fondateurs de leurs clans respectifs. Au temps de l'Alcheringa, le Wolunkwa parcourait en tous sens le pays. Dans les différentes localités où il s'arrêtait, il essaimait des « spirit children », des principes spirituels, qui servent encore d'âme aux vivants d'aujourd'hui. Le Wolunkwa est même considéré comme une sorte de totem éminent. Les Waramunga sont divisés en deux fratries, appelées l'une Uluru et l'autre Kingili. Presque tous les totems de la première sont des serpents d'espèces différentes. Or, ils passent tous pour être descendus du Wolunkwa. On dit qu'il est leur grand-père. On peut entrevoir par là comment, selon toute vraisemblance, le mythe du Wolunkwa a pris naissance. Pour expliquer la présence, dans une même fratrie, de tant de totems similaires, on a imaginé qu'ils étaient tous dérivés d'un seul et même totem. Seulement, on dut nécessairement lui prêter des formes gigantesques, afin que, par son aspect même, il fût en rapport avec le rôle considérable qui lui était assigné dans l'histoire de la tribu. Or, le Wolunkwa est l'objet de cérémonies qui ne diffèrent pas en nature de celles que nous avons précédemment étudiées. Ce sont des représentations où sont figurés les principaux événements de sa vie fabuleuse. On le montre sortant de terre, passant d'une localité dans l'autre. On représente les divers épisodes de ses voyages, etc. Spencer et Guylaine ont assisté à 15 cérémonies de ce genre, qui se sont succédées du 27 juillet au 23 août, s'enchaînant les unes aux autres suivant un ordre déterminé, de manière à former un véritable cycle. Par le détail des rites qui la constituent, cette longue fête est donc indistincte de l'Intishuma ordinaire des Waramunga. C'est ce que reconnaissent les auteurs qui nous l'ont décrite. Mais d'un autre côté, c'est un Intishuma qui ne saurait avoir pour objet d'assurer la fécondité d'une espèce animale ou végétale, puisque le Wolunkwa est à lui seul sa propre espèce et qu'il ne se reproduit pas. Il est, et les indigènes ne paraissent pas avoir le sentiment qu'il ait besoin d'un culte pour persévérer dans son être. Non seulement ces cérémonies n'ont pas l'efficacité de l'Intishuma classique, mais il ne semble pas qu'elles aient une efficacité matérielle d'aucune sorte. Le Wolunkwa n'est pas une divinité préposée à un ordre déterminé de phénomènes naturels, et par suite, on attend de lui, en échange du culte, aucun service défini. On dit bien que, si les prescriptions rituelles sont mal observées, le Wolunkwa se fâche, sort de sa retraite et vient se venger sur ses fidèles de leur négligence. Inversement, Quand tout s'est régulièrement passé, on est porté à croire qu'on s'en trouvera bien et que quelque événement heureux se produira. Mais l'idée de ces sanctions possibles n'est évidemment née qu'après coup, pour rendre compte du rite. Une fois la cérémonie instituée, il parut naturel qu'elle servît à quelque chose, et par suite que l'omission des observances prescrites exposa à quelques dangers. Mais on ne l'a pas instituée pour prévenir ces dangers mythiques ou pour s'assurer des avantages particuliers. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont représentés dans les esprits que de la manière la plus imprécise. Les anciens, par exemple, annoncent, quand tout est terminé, que le Wolunkwa, s'il est satisfait, enverra de la pluie. Mais ce n'est pas pour avoir de la pluie qu'on célèbre la fête. On la célèbre parce que les ancêtres l'ont célébrée, parce qu'on y est attaché comme à une tradition très respectée, et parce qu'on en sort avec une impression de bien-être moral. Quant aux autres considérations, elles n'ont qu'un rôle complémentaire. Elles peuvent servir à confirmer les fidèles dans l'attitude que le rite leur prescrit. Elles ne sont pas la raison d'être de cette attitude. Voilà donc tout un ensemble de cérémonies qui se proposent uniquement de réveiller certaines idées et certains sentiments, de rattacher le présent au passé, l'individu à la collectivité. Non seulement, en fait, elles ne peuvent servir à d'autres fins, mais les fidèles eux-mêmes ne leur demandent rien de plus. C'est une preuve nouvelle que l'état psychique dans lequel se trouve le groupe assemblé constitue bien la seule base, solide et stable, de ce qu'on pourrait appeler la mentalité rituelle. Quant aux croyances qui attribuent au rite telle ou telle efficacité physique, elles sont choses accessoires et contingentes, puisqu'elles peuvent manquer sans que le rite soit altéré dans ce qu'il a d'essentiel. Ainsi, les cérémonies du Wolunkwa, mieux encore que les précédentes, mettent à nu, pour ainsi dire, la fonction fondamentale du culte positif. Si, d'ailleurs, nous avons spécialement insisté sur ces solennités, c'est à cause de leur exceptionnelle importance. Mais il en est d'autres qui ont exactement le même caractère. Ainsi, il existe chez les Waramunga un totem du garçon qui rit. Le clan qui porte ce nom a, disent Spencer et Guylaine, la même organisation que les autres groupes totémiques. Comme eux, il a ses lieux sacrés, Mungai, où l'ancêtre fondateur a célébré des cérémonies au temps fabuleux, où il a laissé, derrière lui, des spirit children qui sont devenus les hommes du clan, et les rites qui se rattachent à ce totem sont indiscernables de ceux qui se rapportent aux totems animaux ou végétaux. Il est pourtant évident qu'il ne saurait avoir d'efficacité physique. Il consiste en une série de 4 cérémonies, qui se répètent plus ou moins les unes les autres, mais qui sont uniquement destinées à amuser, à provoquer le rire par le rire, c'est-à-dire en somme, à entretenir la gaieté et la bonne humeur dans le groupe, qui a comme la spécialité de ses dispositions morales. On trouve chez les Arunta eux-mêmes plus d'un totem qui ne comporte pas d'autres intishuma. Nous avons vu en effet que chez ce peuple, les plis ou les dépressions de terrain qui marquent l'endroit où quelque ancêtre a séjourné servent parfois de totem. À ces totems sont attachées des cérémonies, qui manifestement ne peuvent avoir d'effet physique d'aucune sorte. Elles ne peuvent consister qu'en représentations, dont l'objet est de commémorer le passé, et elles ne peuvent viser aucun but en dehors de cette commémoration. En même temps qu'elles nous font mieux comprendre la nature du culte, ces représentations rituelles mettent en évidence un important élément de la religion. C'est l'élément récréatif et esthétique. Déjà, nous avons eu l'occasion de montrer qu'elles sont proches parentes des représentations dramatiques. Cette parenté apparaît encore avec plus d'évidence dans les dernières cérémonies dont il vient d'être parlé. Non seulement, en effet, elles emploient les mêmes procédés que le drame proprement dit, mais elles poursuivent un but de même genre. Étrangères à toute fin utilitaire, elles font oublier aux hommes le monde réel, pour les transporter dans un autre où leur imagination est plus à l'aise. Elles distraient. Il arrive même qu'elles aient jusqu'à l'aspect extérieur d'une récréation. On voit les assistants rire et s'amuser, ouvertement. Les rites représentatifs et les récréations collectives sont même des choses tellement voisines qu'on passe d'un genre à l'autre, sans solution de continuité. Ce que les cérémonies proprement religieuses ont de caractéristique, c'est qu'elles doivent être célébrées sur un terrain consacré, d'où les femmes et les non-initiés sont exclus. Mais il en est d'autres où ce caractère religieux s'efface quelque peu sans disparaître complètement. Elles ont lieu en dehors du terrain cérémoniel, ce qui prouve qu'elles sont déjà laïques à quelques degrés. Et cependant, les profanes, femmes et enfants, n'y sont pas encore admis. Elles sont donc sur la limite des deux domaines. En général, elles se rapportent à des personnages légendaires, mais qui n'ont pas de place régulière dans les cadres de la religion totémique. Ce sont des esprits, le plus souvent malfaisants, qui sont plutôt en rapport avec les magiciens qu'avec le commun des fidèles, sorte de croque-mitaines auxquels on ne croit pas avec le même degré de sérieux et la même fermeté de conviction qu'aux êtres et aux choses proprement totémiques. À mesure que se relâche le lien qui rattache à l'histoire de la tribu les événements et les personnages représentés, à mesure aussi les uns et les autres prennent un air plus irréel et les cérémonies correspondantes changent de nature. C'est ainsi qu'on entre progressivement dans le domaine de la pure fantaisie et qu'on passe du rite commémoratif au corroboré vulgaire, simple réjouissance publique qui n'a plus rien de religieux et à laquelle tout le monde peut indifféremment prendre part. Peut-être même certaines de ces représentations, dont l'unique objet est actuellement de distraire, sont-elles d'anciens rites qui ont changé de qualification ? En fait, les frontières sont tellement flottantes entre ces deux sortes de cérémonies qu'il en est dont il est impossible de dire avec précision auquel des deux genres elles ressortissent. C'est un fait connu que les jeux et les principales formes de l'art semblent être nés de la religion, et qu'elles ont, pendant longtemps, gardé un caractère religieux. On voit quelles en sont les raisons. C'est que le culte, tout en visant directement d'autres fins, a été en même temps pour les hommes une sorte de récréation. Ce rôle, la religion ne l'a pas joué par hasard, grâce à une heureuse rencontre, mais par une nécessité de sa nature. En effet, bien que comme nous l'avons établi, la pensée religieuse soit tout autre chose qu'un système de fiction, les réalités auxquelles elle correspond ne parviennent cependant à s'exprimer religieusement que si l'imagination les transfigure. Entre la société telle qu'elle est, objectivement, et les choses sacrées qui la représentent symboliquement, la distance est considérable. Il a fallu que les impressions réellement ressenties par les hommes et qui ont servi de matière première à cette construction aient été interprétées, élaborées, transformées jusqu'à devenir méconnaissables. Le monde des choses religieuses est donc, mais seulement dans sa forme extérieure, un monde partiellement imaginaire, et qui, pour cette raison, se prête plus docilement aux libres créations de l'esprit. D'ailleurs, parce que les forces intellectuelles qui servent à le faire sont intenses et tumultueuses, l'unique tâche qui consiste à exprimer le réel à l'aide de symboles convenables ne suffit pas à les occuper. Un surplus reste généralement disponible qui cherche à s'employer en œuvres supplémentaires, superflues et de luxe, c'est-à-dire en œuvres d'art. Un surplus reste généralement disponible, qui cherche à s'employer en œuvres supplémentaires, superflues et de luxe, c'est-à-dire en œuvres d'art. Il en est des pratiques comme des croyances. L'état d'effervescence où se trouvent les fidèles assemblés se traduit nécessairement au dehors par des mouvements exubérants, qui ne se laissent pas facilement assujettir à des fins trop étroitement définies. Il s'échappe en partie, sans but, se déploie pour le seul plaisir de se déployer, se complaise en des sortes de jeux. Au reste, dans la mesure où les êtres auxquels s'adresse le culte sont imaginaires, ils sont impropres à contenir et à régler cette exubérance. Il faut la pression de réalités tangibles et résistantes pour astreindre l'activité à des adaptations exactes et économiques. Aussi s'expose-t-on à des mécontes quand, pour expliquer les rites, on croit devoir assigner à chaque geste un objet précis et une raison d'être déterminée. Il en est qui ne servent à rien. Ils répondent simplement au besoin d'agir, de se mouvoir, de gesticuler, que ressentent les fidèles. On voit ceux-ci sauter, tourner, danser, crier, chanter, sans qu'il soit toujours possible de donner un sens à cette agitation. Ainsi, la religion ne serait pas elle-même si elle ne faisait pas quelque place aux libres combinaisons de la pensée et de l'activité, au jeu, à l'art, à tout ce qui recrée l'esprit fatigué parce qu'il y a de trop assujettissant dans le labeur quotidien. Les causes mêmes qui l'ont appelé à l'existence lui en font une nécessité. L'art n'est pas seulement un ornement extérieur dont le culte se parerait pour dissimuler ce qu'il peut avoir de trop austère et de trop rude, mais par lui-même, le culte a quelque chose d'esthétique. À cause des rapports bien connus que la mythologie soutient avec la poésie, on a voulu parfois mettre la première en dehors de la religion. La vérité est qu'il y a une poésie inhérente à toute religion. Les cérémonies représentatives qui viennent d'être étudiées rendent sensible cet aspect de la vie religieuse, mais il n'est guère de rite qui ne le présente à quelque degré. Assurément, on commettrait la plus grave erreur si l'on ne voyait de la religion que cet unique aspect, ou si même on en exagérait l'importance. Quand un rite ne sert plus qu'à distraire, ce n'est plus un rite. Les forces morales qu'expriment les symboles religieux sont des forces réelles, avec lesquelles il nous faut compter et dont nous ne pouvons faire ce qu'il nous plaît. Alors même que le culte ne vise pas à produire des effets physiques, mais se borne délibérément à agir sur les esprits, son action s'exerce dans un autre sens qu'une pure œuvre d'art. Les représentations qu'il a pour fonction d'éveiller et d'entretenir en nous ne sont pas de vaines images qui ne répondent à rien dans la réalité, que nous évoquons sans but, pour la seule satisfaction de les voir apparaître et se combiner sous nos yeux. Elles sont aussi nécessaires au bon fonctionnement de notre vie morale que les aliments à l'entretien de notre vie physique. Car c'est par elles que le groupe s'affirme et se maintient, et nous savons à quel point il est indispensable à l'individu. Un rite est donc autre chose qu'un jeu. Il est de la vie sérieuse. Mais si l'élément irréel et imaginaire n'est pas essentiel, il ne laisse pas de jouer un rôle qui n'est pas négligeable. Il entre pour une part dans ce sentiment de réconfort que le fidèle retire du rite accompli, car la récréation est une des formes de cette réfection morale qui est l'objet principal du culte positif. Une fois que nous nous sommes acquittés de nos devoirs rituels, nous rentrons dans la vie profane avec plus de courage et d'ardeur, non seulement parce que nous nous sommes mis en rapport avec une source supérieure d'énergie, mais aussi parce que nos forces se sont retrempées à vivre pendant quelques instants d'une vie moins tendue, plus aisée et plus libre. Par là, la religion a un charme qui n'est pas un de ses moindres attraits. C'est pourquoi l'idée même d'une cérémonie religieuse de quelque importance éveille naturellement l'idée de fête. Inversement, toute fête, alors même qu'elle est purement laïque par ses origines, à certains caractères de la cérémonie religieuse, car dans tous les cas, elle a pour effet de rapprocher les individus, de mettre en mouvement les masses et de susciter ainsi un état d'effervescence, parfois même de délire, qui n'est pas sans parenté avec l'état religieux. L'homme est transporté hors de lui, distrait de ses occupations et de ses préoccupations ordinaires. Aussi, observe-t-on de part et d'autre les mêmes manifestations, cris, chants, musique, mouvements violents, danse, recherche d'excitants qui remontent le niveau vital, etc. On a souvent remarqué que les fêtes populaires entraînent aux excès, font perdre de vue la limite qui sépare le licite et l'illicite. Il est également des cérémonies religieuses qui déterminent comme un besoin de violer les règles ordinairement les plus respectées. Ce n'est pas, certes, qu'il n'y ait pas lieu de différencier les deux formes de l'activité publique. La simple réjouissance, le corroborie profane, n'a pas d'objet sérieux, tandis que, dans son ensemble, une cérémonie rituelle a toujours un but grave. Encore faut-il observer qu'il n'y a peut-être pas de réjouissance où la vie sérieuse n'est quelque écho. Au fond, la différence est plutôt dans la proportion inégale suivant laquelle ces deux éléments sont combinés.